Vous écoutez
RMC.
RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches à minuit, la seule émission de poker du PAF. Salut Moundir.
Eh oui, comme tu le dis, la seule et unique, comme toi Daniel.
De poker, de jeu, poker, de tout.
De tout, de partage, de.
Tu as passé une bonne semaine, tu as joué un petit peu.
Exceptionnel, ouais, j'ai joué, j'ai raté le Détroit du Million Week. Sur Wina. J'ai fini 70e sur 20 000 joueurs. Voilà.
Dit comme ça, c'est une performance, mais pour toi, on s'attend toujours à mieux.
Ouais, je m'attendais à ce titre que je recherche encore, le deuxième, mais bon, il est pas.
Le deuxième, ça va, t'en as un déjà.
Genre, ouais, j'en ai un, mais.
T'es devenu gourmand.
Ouais, un peu comme un cuistot.
C'est normal, c'est normal.
Bah oui.
Ce soir, nous allons parler, comme tous les ans, et ça nous fait plaisir à chaque fois de faire un petit bilan du jeu en France, comment le jeu se porte. Et il se porte bien, mais il nécessite du contrôle, et c'est pour ça que nous avons le directeur général de l'autorité nationale des jeux, Rémi Lataste, avec nous en studio.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir Mondia.
Bienvenue. Donc vous prenez la succession, parce que d'habitude, depuis des années, nous étions habitués à recevoir Christelle Fiorina.
Exactement.
Vous êtes le substitut. Enfin, vous avez pris sa place. Dans le micro, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait.
Très bien. Eh bien, on est heureux de vous accueillir à côté de vous dans le studio. C'est un joueur.
Un champion.
A-t-il besoin d'être contrôlé?
En tout cas,
pratique-t-il le jeu responsable?
Eh oui.
Faudra s'interroger. On va l'interroger. Robin Gérard.
Salut Robin. Enchanté.
Alors, pour ceux qui peuvent tomber sur toi, sur Wina, ton pseudo, c'est Chauffe qui peut.
Absolument.
Tu l'as déjà croisé?
Oui, j'ai déjà croisé.
Quand tu le vois, il faut se barrer parce qu'il fait peur.
Disons que maintenant.
Il est solide.
Vu qu'il a été vainqueur du 3 millions de KO des anciens Wina Sabre.
Parce qu'à la base, il était dans le marketing, tu vois. Il n'est pas joueur de poker professionnel au départ.
Ouais, c'est quelqu'un qui a
fait. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il a quitté, qu'il est joueur de poker, n'est-ce pas?
Un an sur les MTT.
Et en un an, ça tombe déjà les résultats.
Il y a eu quelques petits résultats sympas. J'ai eu l'occasion de gagner un Battle Royale. On s'est croisé aussi avec Moundir en live à Bratislava.
Ah, t'es allé à Bratislava?
T'es à Bratislava.
Mais t'as croisé Moundir, genre, l'année où les pétales de rose tombaient sur sa tête, ou l'année où c'était les orties et les pissenlits?
Alors, c'était cette année-là, c'était un peu plus les orties, je crois. On a eu l'occasion de manger ensemble, c'était très sympa.
Exactement.
Cette année, il a mangé les pissenlits par la racine. Il les a bouffés. Hein. Ça, c'était pas bien tourné. On essaiera également d'avoir, jeudi, parce que la semaine dernière, nous avons échoué le reporting notre liaison avec l'étranger et notamment l'Australie, puisque c'est là-bas qu'il vit, Romain Morvan, notre expatrié. Effectivement, mais ça fait deux semaines qu'on dit belle histoire. À un moment, ce serait bien qu'on l'entende, la belle histoire.
Ah oui, mais il va plan PCV, donc c'est pas possible.
Ça n'existe plus, le PCV.
Ah pardon, merde.
Ça n'existe plus. Voilà pour le programme du jour.
Génial.
Évidemment, il y aura dans la tête d'un fiche, parce que ça fait toujours du bien de jouer. Est-ce que Rémi Lataste joue ou est-ce qu'il ne fait que contrôler?
Alors, au poker, il ne fait que contrôler. Mmh. Au pari sportif, il ne joue plus puisque les
ils n'ont pas le droit de jouer.
Donc, pour l'instant, je joue au Prono Rugby qui sont organisés par l'équipe communication de l'ANJ pendant la Coupe du Monde. Voilà.
D'accord. Ah, pendant la Coupe du Monde,
c'est complètement free.
Oui, voilà.
Juste pour le plaisir.
Mettez-vous en face du micro, s'il vous plaît, Rémi. Voilà. Donc, et pour le rugby, commençons par ça, justement.
Ouais.
Le rugby rencontre un succès, en tout cas d'audience à la télé. Ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde de rugby, c'est assez phénoménal en termes d'engouement. Est-ce qu'on le retrouve sur les sites de Paris?
Alors, côté Paris,
est-ce qu'il n'y a pas cette culture
rugby,
comme
c'est
au foot,
pas tout ça. L'engouement absolu. Aujourd'hui, on est après un mois de compétition, il y a 75 millions de mise, donc c'est beaucoup par rapport à d'habitude, mais de manière intersidérale, très très loin du foot, puisque pour rappel, la Coupe du Monde de foot, c'est 1 milliard de mise, dont 600 online, donc évidemment, c'est deux univers différents.
Excusez-moi Rémi, mais moi, si je suis opérateur, la Coupe du Monde de rugby, c'est un gouffre. Tous les résultats avant les quarts de finale sont prévisibles. Il n'y a pas de suspense.
Sauf le Portugal.
Ouais, mais ok, mais si 90% des résultats sont prévisibles pour un opérateur, c'est.
Je vois que
Robin sourit. C'est vrai.
Ouais. Moi, je sais pas comment il s'y retrouve.
Ah bon?
Bah, tous les matchs, bah oui, obligatoirement.
Rugby, c'est des cotas 1.06 ou 1.10.
Ah ouais, non, il y a tout est. Il y a.
Surtout.
Pas de surprise. Il faut qu'il y ait.
Argentine, Arabie Saoudite, pour que, comme au mondial, où tout le monde s'est éclaté la gueule et.
Ça n'existe pas au rugby, ça.
Ah, non, mais Fidji-Portugal, c'est un bon exemple.
Voilà, donc, ça c'est vraiment le seul où c'est un peu équilibré. Mais après, les matchs que la Nouvelle-Zélande va faire contre Italie, Namibie, je sais plus qui y avait encore dans ce groupe-là, c'est.
Ah, ouais, d'accord. Donc le mec peut mettre 100 000, 200 000, il est sûr de gagner.
Sûr. Mais c'est pour ça que les cotes sont infimes.
Ah, ouais, d'accord.
Donc je sais pas si. Alors, forcément, ça existe, mais est-ce que les opérateurs, ils doivent flipper de ça?
Écoutez, on verra, on fera le bilan à la fin de la compétition. Ouais. Et s'ils doivent flipper, se plaindre un peu, je ne doute pas qu'ils viendront nous voir à la fin.
Et est-ce qu'un opérateur peut décider c'est trop facile, je mets pas ces matchs?
Après, c'est tout, il fait ce qu'il veut dans une logique de marché quand même où tout le monde se compare. Il y a quand même une forte similitude d'offres. On a plus intérêt à avoir une même proposition que retirer sa proposition.
Ouais, que ne pas en avoir du tout.
Tout à fait.
Romain, t'avais l'air au courant. Je sais pas si tu l'es vraiment, mais par exemple, en France, Italie au rugby, c'est quoi la cote sur l'équipe de France?
Je pense que cette année, c'était vraiment une cote à 1.10, quelque chose comme ça, quoi.
Ouais.
Vraiment très très. Après, il faut savoir si les joueurs jouent les petites cotes, parce que les joueurs qui jouent.
C'était 1-0-1.
Ouais.
Jérémy
1-0-1.
Me dit.
Ah, ouais. D'accord. Ah,
mais ils sont plus sur les combinés, sur les combos.
Oui, alors après, effectivement, il y a toujours une autre.
Tu joues les grosses cotes parce qu'ils veulent toucher un gros pactole.
Il y a toujours une autre façon de parier, c'est le nombre, les points d'écart, le nombre d'essais. Il y a toujours matière à trouver, du pain à manger, mon dieu.
Ah, bah ça, je veux dire, à manger.
Dès qu'il y a un bout de pain sur la table.
Attention à ce que tu manges aussi, hein. Parfois, ça fait mal au ventre.
Oui, c'est vrai qu'on peut toujours agrémenter le pari autour du rugby. Ouais. Mais bon, on fera, donc le bilan sera intéressant à faire parce qu'il y a vraiment un tel engouement autour de cette Coupe du Monde de rugby. Je me demandais si ça se voyait dans les paris. Mais bon, le foot domine toujours dans ce qui est paris sportif.
Le foot domine toujours de très très loin.
Alors, quel est le message? Commençons par ça. Puisque c'est la deuxième édition de la semaine du jeu responsable. Et c'est aussi principalement pour ça que vous êtes avec nous. Et nous, tous les ans, on tient à relayer ce message. Parce que je pense que c'est important pour que le jeu se porte bien. Mm-hmm. Et pour qu'on ne blâme pas cette activité. Il faut que ça se passe bien. Il ne faut pas que ça devienne une addiction. C'est le message principal que vous tenez à faire passer.
Tout à fait. Alors pour l'ANJ, la semaine du jeu responsable, c'est un peu toute l'année. Hein.
oui.
Le message principal qu'on voudrait faire passer, c'est qu'effectivement, on sait bien que l'important, c'est de gagner, mais l'important aussi, c'est que le jeu reste en jeu. Et nous, de là où on opère, en fait, on voit quand même que ça se passe pas toujours très bien. Et c'est quand même un point qu'on voudrait dire et qu'on voudrait montrer. On a une forme d'explosion du fichier des interdits de jeu. Vous savez qu'en France, il y a la possibilité...
Une explosion du fichier, carrément.
On a 55 000 personnes interdites aujourd'hui.
Wow.
Et on a 1300 demandes par mois. Juste quoi. Wow. Donc, il y a, quand je dis une explosion, c'est quand même des chiffres qui sont très, très élevés, hein, toujours à nuancer. Et avec cet élément nouveau par rapport aux années précédentes, que ce sont les jeunes et les moins de 25 ans qui font la dynamique du fichier. Donc, pour nous, c'est un élément d'attention particulièrement important.
Et les opérateurs collaborent ?
Les opérateurs collaborent, mais je dirais que le jeu responsable, alors déjà le jeu responsable c'est un mauvais terme, parce que il laisse à penser que finalement c'est avant tout la responsabilité du joueur. Alors bien sûr, le joueur, il est responsable, il doit modérer sa dépense, il doit jouer à hauteur de ses moyens, et surtout quand il peut plus aller au-delà, il arrête de jouer pour pas dévisser. Mais c'est l'affaire de tous, il y a vous déjà, et merci de relayer ce message.
Bien sûr.
Ainsi que les streamers. Il y a les opérateurs qui ont, à notre avis, deux responsabilités fondamentales. La première, et vous le savez bien, en poker, c'est la conception du produit. Parce que des fois, vous avez des produits très rapides et qui peuvent déclencher des addictions plus fortes.
C'est vrai.
Et la deuxième, c'est la manière de ne pas exciter, de ne pas générer des frénésies. Évidemment, quand vous vous retrouvez en salon VIP, que vous êtes bombardé de bonus et que vous voulez vous refaire, c'est souvent quelque chose qui peut précipiter.
Ça, vous contrôlez ces offres-là chez les opérateurs?
Ça, on contrôle. C'est clairement notre point d'attention numéro un. Et c'est ce sur quoi nous comptons redoubler d'efforts l'année prochaine. À la fois.
C'est quoi la limite? C'est dire à l'opérateur, drague, mais ne drague pas trop. C'est la frontière, elle est délicate. Parce qu'on sait bien que l'opérateur est là pour, par le biais des pubs. Et on en parlera après. Parce que, l'année dernière, Christelle, qui était à votre place, nous parlait notamment du contrôle des publicités, notamment de Wina et des autres. On avait un débat là-dessus qui était intéressant. Il y a ça. Et il y a ce phénomène de séduction, encore une fois, je répète, c'est drague-moi, mais pas trop lourdement, quoi. Alors, comme dans la vie, quoi, finalement.
Je vais vous renverser la frontière de la drague, quelque part. Le problème, c'est pas de savoir qui a fait le premier pas. Le problème, c'est quand ça part en vrille. Et là, nous, ce qu'on cherche à regarder avant de se dire à partir de quel seuil il y a jeu excessif ou pas, c'est de se dire dans les cas les plus dangereux, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire la responsabilité de l'opérateur, c'est de dire non seulement je t'envoie pas de free bet, mais en plus, je vais t'inciter à modérer ta consommation. Et ça, aujourd'hui, il y a un effort du marché, et je crois que c'est un point qu'il faut saluer.
Un effort du marché, c'est un effort.
C'est-à-dire, les opérateurs, vous voulez dire ? Depuis 2 ans, les opérateurs commencent à faire significativement évoluer leur comportement, mais on n'y est pas encore, et il faut encore augmenter le braquet pour qu'on...
Mais ils sont réceptifs quand vous parlez avec eux ?
Ben, ils sont réceptifs.
Moi, je crois savoir que oui, mais...
Alors, je vais vous dire, ils sont réceptifs, évidemment, dans la limite du marché. Aujourd'hui, en France, 20% du business est fait par des joueurs excessifs. Donc, évidemment, mettre en place la loi, c'est toucher au business. Et c'est l'affaire de tous. Et si on veut que les choses évoluent, ben, il faut que tout le monde avance ensemble. Les opérateurs, ils sont tout à fait réceptifs parce que, quelque part, ils veulent pas que ces joueurs restent dans ce portefeuille, mais il faut que les choses évoluent, il faut faire plus.
Mais monsieur Lataste, permettez-moi, mais c'est vrai qu'on parle souvent des opérateurs. Moi, on va prendre par exemple la Française des Jeux, donc la FDJ. Il y a énormément de victimes dans les bars avec le bingo. Bien évidemment, les jeux à gratter qui sont vraiment un vrai fléau. Je suis désolé. Est-ce que aujourd'hui vous avez la main mise dessus ? Est-ce que vous travaillez aussi là-dessus ? Parce que effectivement, il y a les plateformes. Là, on peut contrôler parce que c'est traqué. Il y a une pièce d'identité. Il y a le joueur qu'on reconnaît. Et bien évidemment, même quand vous intervenez pas. Alors moi, qui suis chez Winamax depuis 10 ans, effectivement, et qui a toujours fait du jeu responsable, on arrive tout de suite à déceler qui va se broquer ou pas. Mais par exemple, dans les cafés où le jeu du bingo, c'est un vrai traquenard. Comment vous faites pour intervenir là-dessus, par exemple ?
Alors, je vous remercie, Moundir, pour cette question. Un des jobs de l'autorité, c'est aussi de contrôler l'offre de la Française des Jeux. Et précisément, il n'y a pas un jeu de la Française des Jeux qui n'est pas préalablement autorisé par l'autorité. Vous parlez du bingo, je pense que vous parlez en fait de l'Amigo.
L'Amigo, oui.
Alors, l'Amigo, qui est évidemment... presque 30% du chiffre d'affaires qui est généré, c'est vraiment en tout cas un jeu qui est très important dans la gamme de la Française des Jeux et qui présente des risques de jeu excessif parce qu'effectivement les parties s'enchaînent et les joueurs ne s'arrêtent pas. Donc nous avons une discussion approfondie avec la Française des Jeux sur le sujet. Nous avons autorisé sous condition ce jeu, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que nous avons dit OK, vous pouvez continuer, mais il faut faire moins de parties. Plus de temps d'espace entre deux parties.
D'accord.
Il faut diffuser des messages de prévention. Et puis on s'est dit, écoutez, on se donne 18 mois pour voir ce que ces mesures donnent. On va faire un bilan pour voir en termes de jeux excessifs, finalement, où c'est qu'on en est. Et puis on va voir si ça suffit ou s'il faut aller plus loin. Et pour le coup, c'est dans cette discussion-là avec la Française des Jeux dans laquelle nous nous trouvons. On espère avoir des résultats très rapidement.
Robin, vous.
Ouais, moi j'avais question. Juste une question sur Winamax par exemple et sur tous les sites de poker en ligne. Il y a des limites de dépôt par semaine. Du coup, en fait, c'est vachement encadré pour un joueur. C'est-à-dire que demain, il définit ses limites. Même s'il y a des opérations marketing, etc., il est capé, entre guillemets. Il a des limites de retrait quotidien, enfin de dépôt quotidien, de dépôt hebdomadaire, etc. Moi, je sais que c'est une obligation, je crois, légale pour les sites de proposer ça. Au final, quel est l'impact une fois qu'il y a ça en place?
Alors, vous avez raison, ça fait partie des nombreux sujets de réflexion qu'on a. Ça, c'est une bonne chose qu'il y a en France, l'obligation de se mettre des limites, mais ça suffit pas. Dans le sens où, c'est pas que je suis totalement porté sur le contrôle, mais les limites, on les bouge, on peut les bouger assez rapidement, et on voit bien, d'ailleurs, dans nos opérations de contrôle sur les joueurs les plus excessifs, un des indicateurs qui nous montre que le joueur est en train de dévisser, c'est un joueur qui bouge tout le temps ses limites. Ça fait partie. Souvent, on se dit, en fait, ce sont les montants. Mais en vrai, c'est l'un des indicateurs les plus forts, c'est quand on bouge souvent les limites. Et en fait, on voit bien, il y a une part, ce que ça montre, c'est qu'il y a une part de la responsabilité qui vient du joueur, pouvoir se mettre des limites. Mais il y a aussi une part de responsabilité qui doit venir de l'opérateur, savoir freiner ou accompagner. Et puis aussi une part de responsabilité qui vient des pouvoirs publics, dont l'autorité. C'est-à-dire qu'il faut savoir contrôler et sanctionner quand les limites sont franchies.
Dites-moi, est-ce que on est les seuls en France à avoir ce genre d'autorité de contrôle ou des pays qui sont complètement libéraux et qui laissent tout faire et qui s'en foutent un peu que les mecs aillent dans le mur ou pas ?
Alors, effectivement, c'est à peu près toute l'Europe a des autorités de contrôle, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la libéralisation qui vient, comme vous savez, de la législation législation européenne, elle est arrivée à peu près en 2005 en Europe.
Oui, oui.
Et en fait, elle a été portée par un très grand flot libéral où finalement tout le monde faisait ce qu'il voulait et puis chacun est responsable avec sa pratique. Ce qu'on observe depuis 4-5 ans, c'est que des frontières ont été franchies. Les frontières, c'est simple, là, c'est les dommages sociaux. D'ailleurs, il y a une étude anglaise qui est assez intéressante sur ça, je vais pas vous bombarder d'études, mais dit, pour un joueur addict, c'est 6 personnes qui sont touchées. Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui est important, c'est le dommage social. C'est-à-dire que ça touche la personne, mais aussi ça touche le pisteur.
Ça fait effet domino sur la famille.
Et donc, en fait, ce qu'on a observé, c'est que le jeu excessif, le jeu problématique, il augmente partout en Europe. C'est d'ailleurs pour ça que les opérateurs, ils sont aussi concernés par le sujet, parce qu'il en va de l'avenir du marché. Et on voit bien que des pays très, très libéraux sont en train d'opérer des tournants de restriction. Vous voyez la publicité interdite ou sévèrement réduite en Italie, en Espagne. L'Italie, quand même. L'Angleterre opère exactement le même tournant de rigidité. Donc voilà, le message, c'est que pour que ça continue, bah, il faut que qu'on désintensifie les comportements excessifs.
Je vous posais cette question parce que cette semaine est passé un doc sur Arte autour du jeu. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et c'est vrai qu'il y avait des cas. Je ne sais pas si vous, dans votre contrôle, j'imagine que vous êtes face à des cas excessifs et qui limitent quand on les regarde. Font de la peine, quoi. Vous êtes dans l'empathie. Je sais même pas quel sentiment avoir face à ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais de la peine. Il y a un monsieur, je sais pas comment dire, il avait l'air normal. C'est toujours un peu difficile de dire ce genre de choses. En tout cas, père de famille, ça, c'est sûr. Et qui expliquait, comme il était tombé, la première fois qu'il parie devant la télé, il parie, son pote lui dit, allez, il va y avoir un but. Il dit, OK, je tente le pari, le but arrive. Et de là, l'engrenage se met en route. Mais sa vie est devenue complètement dingo. Je crois qu'il a perdu tout. Je crois qu'il avait ouvert 6 comptes, 6 cartes de crédit, tout en négatif, hein, tout à découvert. Dans la foulée, je crois qu'il il vend à peu près tout ce qu'il a. Et il finit par détourner l'argent de sa boîte, là où il travaille. Il n'est chopé qu'au bout de 4 ans. Je crois qu'il a dû détourner dans les 200 000. C'est incroyable. C'est incroyable quand vous êtes face à... Je sais pas, vous vous retrouvez face à ce genre de profil-là?
Alors, Daniel, oui, tout à fait. Ce n'est pas un cas isolé. Pour l'ANJ, c'est le quotidien du fichier des interdits jeux dont je vous parlais tout à l'heure.
À ce point-là?
Oui, oui, à ce point-là.
Quand on le voit dans le doc, on regarde, on se dit... Bon, ce gars-là, c'est un cas isolé. C'est un gars, il s'est perdu. C'est terrible, mais je me dis pas, il y en a 10 comme lui, quoi.
Alors peut-être 2 points sur ça pour être clair. Le premier point, oui, c'est une réalité. C'est le quotidien du régulateur qui protège. Le chiffre, c'est 400 000 joueurs excessifs en France. 400 000. Alors pour que tout le monde saisisse ce que c'est 400 000, c'est la ville de Nantes ou la ville de Nice. Donc vous imaginez cette ville et vous avez la population de joueurs excessifs. Je dis pas de joueurs qui auront peut-être un problème, je dis des joueurs qui ont un problème important. Et le deuxième point, c'est que derrière ces effets, il faut trouver aussi des équilibres. Il y a quand même la majeure partie du marché joue de manière saine. On n'est pas, il faut pas penser non plus que 80 ou 90% du marché est toxique. Par contre, on est sur une pente qu'il faut infléchir. Ça, c'est vrai.
D'accord. J'aimerais. Je suis parti voir un peu la musique que vous avez faite. En tout cas, avec l'ANJ, t'as joué, t'as perdu. Et j'ai essayé de comprendre en fait le sens de ce clip qui est d'ailleurs magnifiquement bien fait. Et le flow, en tout cas, est super. Est-ce que ce clip est fait contre les plateformes en ligne? Parce qu'il peut être, moi quand j'écoute les paroles, on a l'impression de dire il faut cesser de jouer complètement, il faut arrêter avec les plateformes en ligne si vous voulez pas avoir de problème. Moi c'est comme ça que je prends l'envers en tout cas de la musique, sachant qu'elle est bien faite. Moi j'aimerais comprendre le sens de cette musique quand il y a une phrase qui est super, je suis endetté jusqu'à 18 ans alors que j'ai pas 18 ans. J'ai trouvé ça fort. À quel moment la plateforme elle peut se dire ouais mais là ça c'est un truc contre nous?
Alors merci Mounir. Effectivement, c'est ce qu'ils nous ont dit, mais alors précisément, le sens de ce clip, c'est pas contre les plateformes en ligne. Le sens de ce clip, c'est contre le mythe de l'argent facile. Auprès d'une jeunesse qui, à un moment, pense, parce que vous êtes joueur de poker professionnel, semi-professionnel, il y a d'autres qui jouent régulièrement au pari, c'est assez frappant dans les analyses ou les sondages qu'on fait, il y a une partie importante de la jeunesse qui pense qu'elle peut gagner sa vie avec les paris sportifs, ce qui est faux.
totalement faux.
Ce qui est faux. C'est-à-dire, si je vous donne, un point, aujourd'hui, sur le PSG, j'ai 3000 personnes, d'accord, 3000 personnes qui ont gagné plus de 10 000 euros dans une année. Donc, on voit bien, si vous voulez, que ceux qui gagnent beaucoup, c'est un petit groupe de personnes. Et il faut pas être dans l'illusion que, voilà, les paris sportifs peuvent constituer un complément de revenu ou un revenu. Voilà. Et ça, c'est un point qui est très, très important. Je pense qu'il constitue un peu l'ADN du message de l'ANJ.
D'accord. Que pensez-vous parce que là, ça, c'est drôle parce que actuellement, vous savez, et puis on a un streamer et champion avec nous qui est Robin. Actuellement, sur les réseaux sociaux, vous avez des pubs sur ce qu'on appelle les slots, donc les casinos en ligne, mais c'est l'espèce de slots qui font passer ça pour des jeux gratuits. Et en fait, ils appellent ça les free bets, mais en fait, ce sont des free bets payants. D'accord. Comment vous faites pour intervenir sur ce réseau-là, sur ces réseaux-là où il y a énormément de pubs sur casino, sachant que le casino en ligne est interdit en France, enfin dans pas mal de pays en tout cas. Puis ce sera bien avec tout à l'heure avec Robin, on va pouvoir en discuter. Mais comment vous intervenez sur les réseaux sociaux, par exemple, alors que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de fermer une pub sur Facebook ou dans le groupe Meta en tout cas.
Alors merci. Il y a deux voies. D'abord, il y a une nouvelle loi qui concerne les influenceurs et les réseaux sociaux, oui, avec laquelle on va s'emparer. Et je compte vraiment sur la mobilisation et la coopération des streamers, parce qu'aujourd'hui, l'un des combats sur la publicité, il est plus forcément à la télé, mais il est sur les réseaux sociaux, et c'est fondamental d'avoir des messages responsabilisants, notamment à l'endroit des jeunes. Donc là, ça passe par beaucoup de pédagogie avec ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux. Et puis après, il y a un volet répressif qui peut être soit par l'ANJ, puisqu'en fait, nous condamnons autant le jeu illégal que ceux qui font la publicité du jeu illégal. Donc on peut jouer sur du blocage. Et puis après, s'il y a des actions potentielles, on peut entamer déclencher des actions judiciaires.
D'accord. Un dernier mot sur les pubs. Je vous disais tout à l'heure que l'année dernière, ça avait fait débat. Cette année, Wina n'a pas sorti la fameuse nouvelle grande pub, parce que c'est toujours un concept assez magnifique ce qu'ils font en termes de pub. On est toujours sur celle des chats.
Ouais,
j'ai l'impression,
hein, parce qu'elle
avait été un petit peu retoquée et prolongée. Vous continuez d'avoir un droit de regard sur les publicités que Wina, que Betclic, que Unibet met en avant, toujours avec les fameuses règles. Là, il faut pas qu'on montre. Bon, rappelez-nous ça, parce qu'à chaque fois,
effectivement, on continue d'avoir un droit de regard et on l'exerce d'ailleurs de plus en plus, j'allais dire de manière de plus en plus concertée et coopérative avec les opérateurs. Et là, ça montre que les mentalités évoluent. Il y a deux règles. Il y en a une, c'est sur le fond, le contenu, la ligne éditoriale. Donc c'est simple. Il faut pas faire croire que le jeu d'argent, il va générer de l'ascension sociale ou il va vous rendre plus beau que vous n'êtes. Ça, c'est le premier point et évidemment vis-à-vis des jeunes. Après, l'autre question, c'est comment vous faites de la pub ? Et nous, on a des sujets évidemment sur le marketing digital, parce que c'est une arme très forte et très invasive chez les gens, et aussi la politique de bonus, la politique de VIP, donc on essaie de progressivement construire avec les opérateurs une politique promotionnelle qui soit une politique promotionnelle modérée et qui ne permette pas de faire basculer le jeu au-delà de là où il devrait aller.
Petite question, dernière, excuse-moi, oui. Daniel. Demain, un film sort en France, un film sur le poker, que ce soit poker en ligne ou le poker, ce qu'on appelle en live. Est-ce que vous intervenez sur le film ?
Écoutez, si derrière il n'est pas rattaché à un opérateur, aucune raison. Par contre, j'irai peut-être le voir.
Ah bah, vous serez invité.
Merci beaucoup Rémi Lattas, donc directeur général de l'ANJ.
Ouais, super.
Très bien, très
franchement,
bien.
Bravo. Franchement.
Et saluer Christelle. Bah saluer
Christelle.
Elle travaille plus chez vous, Christelle. On l'embrasse quand même, parce qu'elle est venue plusieurs fois ici. Oui. Et on avait plaisir à la recevoir. Maintenant, c'est vous qui viendrez, Rémi.
C'est Rémi.
On vous accueille quand vous voulez.
Merci à vous.
Fin de cette première partie du RMC Poker Show. On revient dans un instant et on va discuter avec Robin Chauffe. Qui peut, Gérard?
Ah oui.
On va voir s'il nous fait peur.
Chauffe les millions.
Et on n'oublie pas Romain, l'Australien, il sera là aujourd'hui.
Eh oui,
il sera là tout de suite.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
Deuxième partie du RMC Poker Show. On est là en studio avec Mundi,
oui.
Et on était avec Rémi Lattas, le patron de l'ANJ, enfin directeur général. Je ne sais pas si c'est le patron. Hein.
Il le sera un jour. Il le sera un jour, ça, je le sens.
Et oui, parce qu'il faut rappeler que nous sommes dans la deuxième édition de la semaine du jeu responsable, organisée par Winamax. C'est du 9 au 15. Voilà, c'est une semaine où il faut faire attention.
Eh oui.
Et être responsable quand on joue.
Toujours ever.
Et tout le monde doit l'être, pas uniquement le joueur.
Exactement.
Robin.
Enfin.
Bonjour.
Bonjour.
Vainqueur du 3 millions du 3 millions event KO des Winna Series.
Exactement, ouais.
C'était il y a 3 semaines.
C'était il y a 3 semaines déjà, ouais.
Ouais.
Un beau petit pactole.
227 000 euros.
Ouais.
226 911. Non, rajoute pas.
Je vois que tu as bien travaillé.
Non, rajoute pas. Enfin, tu sais, c'est Jérémy qui compte les sous chez nous. Hein. Quand il met sur les feuilles une somme,
ouais.
Il peut pas se tromper. En matière de sous, il rigole pas. C'est comme Moundir.
Je vois.
Non, rigole plus.
Non, Moundir, il aurait fait mieux. Il t'aurait dit combien les impôts vont te prendre dessus.
Bah oui, non, mais moi, moi je vois ce qu'il va se passer demain. Salaud.
Ça m'a fait en position, du coup.
Je disais tout à l'heure que c'est récent, finalement, ta mutation en joueur de poker. Mais alors, une mutation totale, quoi. Parce que là, t'es devenu streamer, gros joueur, régulier. Enfin, ça s'est fait vite et bien.
Pour compléter un petit peu ce que tu dis, moi, je me considère pas comme un joueur de poker aujourd'hui.
Ah.
Je me considère comme un streamer.
C'est un streamer à la base.
C'est ce que j'ai fait, en fait, dans ma transition professionnelle. Je suis parti de directeur marketing dans la sécurité alimentaire dans le bio.
Donc, moi, t'étais,
dans la sécurité alimentaire dans le bio.
Sécurité alimentaire dans,
et
le,
dans
bio.
Le bio.
Et dans le bio.
Bio.
Ah, et dans le bio.
Bio.
D'accord.
Ouais,
et tu étais directeur marketing.
Directeur marketing.
Mais par exemple, dans l'alimentaire, quelle marque
C'est des boîtes comme Merieux Nutrients, je sais pas si ça te parle, c'est tout ce qui fait des contrôles alimentaires, HACCP, plein de choses comme ça. Et Rue Tabago, qui faisait des boîtes de livraison alimentaire. Tu commandes sur le site et tu reçois toutes les semaines ta box. Et bio, responsable, local.
De quoi, le nom de sa boîte, non. Mais je sais qu'il y a des boîtes qui certifient, bien évidemment, les côtés bio de sa machin, un peu comme toi, non?
Ben non, moi je connais pas. Moi, quand je connais pas, je pose des questions. Je pensais que toi tu connaissais.
Ben le bio, tu vends pas du bio comme
non,
ça.
Mais le bio, je sais.
Non, bien sûr que c'est certifié.
Ah bah oui.
T'as des labels européens, t'as plein de choses. Le responsable, c'est pareil. Ouais. T'as des labels.
Déco, machin, un truc, moi, oui.
C'est extrêmement contrôlé.
Totalement.
C'est une vie qui te plaisait, mais t'as voulu en changer.
C'est une vie qui me plaisait. J'avais commencé à stream en parallèle pour le loisir, le soir, le week-end de temps en temps quand j'avais un petit peu de temps.
Ça veut dire quoi quand on commence un stream? Parce que moi, j'avoue, c'est pas de ma génération.
La vidéo, un peu vieux con. La vidéo, en fait, c'est l'impression de partager une activité que t'aimes bien avec des gens qui vont te suivre. Et c'est fou.
Et après, c'est si ça marche.
Et si ça marche.
Que t'as de plus en plus de vues, que ça peut devenir un métier.
Non, t'as une communauté.
T'as une communauté qui se construit, ça peut devenir un métier parce que tu arrives à te rémunérer. T'as plusieurs billets de rémunération. T'as les subs, les gens qui vont s'abonner sur ta chaîne, qui vont payer pour que tu puisses obtenir un petit peu de.
Ce que fait Twitch,
exactement. Ouais. T'as les publicités qui sont faites sur Twitch, quand tu as une chaîne YouTube, quand t'as plein de choses comme ça. Et après, t'as les partenariats potentiels que tu peux avoir avec des marques, etc. Et
d'accord.
Là, tu rejoins ce qu'on discutait tout à l'heure, le côté influenceur, parce que tu es parfois amené à parler de certaines marques, etc.
Et t'as commencé à streamer tout de suite dans le casino en ligne, ou tu faisais du stream avant le casino en ligne?
Alors moi, j'ai commencé à stream avec les échecs.
Le
premier truc que j'ai stream, et en fait, ça part d'une petite histoire toute bête, c'est que pendant le confinement, avec ma femme, elle aimait le wakeboard. On d'accord. Fait beaucoup de wakeboard ensemble. Et elle voulait monter sa chaîne YouTube sur le wakeboard. Et moi, j'ai
lancé
le wakeboard.
Oui, c'est ça.
C'est un peu bizarre comme ça.
C'est, ça, ouais.
C'est plus comme ça.
D'accord.
Mais c'est souvent derrière un bateau.
En radio, c'est bien de faire des gestes, les gars. Bravo. Ouais. Vraiment, je vous félicite là. Je pense que les gens qui vous écoutent en radio, là, ils voient bien les gestes.
Tu le fais souvent derrière un bateau, mais maintenant, c'est beaucoup en câble. En fait, t'as des câbles qui font le tour d'un étang. Et t'as des tremplins sur les côtés, etc. Et bref.
Ah, c'est pas du kitesurf, ça?
Ah non.
Non.
Le kitesurf, justement, le kitesurf, c'est plus
c'est
à
kite,
ça.
C'est...
Là, t'as une voile. Moi, j'ai dit là. T'as une voile, etc.
D'accord. Très bien.
Et du coup, elle voulait lancer sa chaîne YouTube. Et je me suis dit, bah, tiens, pour l'encourager, je vais lancer ma chaîne avec elle pendant le confinement, etc. J'ai lancé cette vidéo qui a marché sur YouTube. Et je me suis dit, bah, trop bien, je reviens 6 mois plus tard.
Toi, t'as commencé avec les échecs.
Ouais. Et il y avait 30 000 vues sur la vidéo.
Ah, 30 000 vues. Et qu'est-ce que tu racontais? Alors,
bah rien, je me filmais sur une partie, j'étais nul en plus, c'était juste mes débuts. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que dans la vidéo, j'ai fait une erreur de langage. Je parlais de ma partie, j'ai fait une erreur, et en fait, sur mon erreur, les gens ont beaucoup commenté la vidéo parce que j'ai fait une erreur dans ce que je disais. Et du coup, ça a contribué à la référencer. Et quand je suis revenu, 6 mois plus tard, j'avais 30 000 vues, des gens qui me disaient, bah vas-y, refais une vidéo, etc., etc.
Ouais,
et du coup, c'est parti de là. Les gens, au fur et à mesure, m'ont parlé de Twitch. Je ne connaissais pas du tout Twitch. J'étais complètement hors sol par rapport à cet écosystème-là, de YouTube, Twitch, etc. Et du coup, j'y suis allé. J'ai commencé à partager ce que je faisais. Et puis, au fur et à mesure, j'ai partagé toutes les pratiques que j'avais dans mon quotidien, tous les trucs que je faisais sur mon PC. Je les partageais en live, en fait. Et en fait, c'est vraiment...
Mais c'est fou, ça. Comment tu fais pour être sûr que les gens, ça va les intéresser?
En fait,
tu
peux pas être sûr. Jamais sûr que ça va les intéresser, mais toi, en fait, t'as pas besoin que ça les intéresse.
Mais moi, si je fais un truc, ça va intéresser qui? Je vais
faire mais toi, même si tu vends du pain demain, ça viendra. Hein.
Ça veut dire quoi, en fait? C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi?
Mais demain, alors, tu joues en ligne.
Moi, je
joue en ligne
sur Winamax.
Bah, à bouffer, ouais. Ou alors par exemple tu fais le journal que tu as, le journal que tu as justement de l'after, tu le fais en écran où tu vas commencer à parler, il va y avoir une interaction avec toute ta communauté qui va te parler à droite et tout ça machin, et c'est comme ça. Aujourd'hui on va parler de Maradona, pourquoi il vient d'où machin, hop, et c'est comme ça. Et ensuite toi tu parles avec les gens et comme ça,
et les gens interagissent en direct avec toi quand tu fais l'activité en fait. Et c'est assez, moi j'ai l'impression d'être en ligne avec mes potes en train de partager un moment, et c'est assez fou en fait. Et à ce moment-là je savais même pas qu'on pouvait en vivre, donc en fait je faisais ça en loisir. C'était vraiment mes temps que je faisais chez moi.
Et après, tu as commencé à rentrer un peu d'oseille.
Et après, j'ai commencé à rentrer un peu d'oseille, de pouvoir me dire, mais en fait, c'est surtout se dire, c'est ce que tu as envie de faire. Parce que bon, en fait, tu te rends compte au fur et à mesure, quand tu as deux activités, à un moment, tu prends le choix. Je me sentais épanoui dans ce que je faisais, en fait. Et c'est incroyable quand tu es streamer, ce qu'on se rend pas compte, c'est tout ce que tu reçois des gens. Que ce soit les commentaires positifs. Alors évidemment, t'as du négatif, mais la majorité des commentaires que tu reçois, c'est extrêmement positif. C'est des gens qui t'encouragent dans ce que tu fais, qui te... Ouais, c'est fou, c'est valorisant. T'as des gens qui te disent, moi, j'ai passé une sale journée, je viens passer un bon moment sur ton stream. Ça fait quelque chose, quoi. Et en fait, c'est pour ça que je dis que je suis streamer, c'est que moi, je suis pas professionnel de poker. Je suis pas du tout techniquement ce qui se fait de mieux sur le poker. Je suis pas là pour apprendre aux gens à jouer au poker. Si j'ai un niveau et que ça peut les intéresser, etc., mais c'est pas mon truc de base. Moi, c'est du divertissement.
Sauf que t'as gagné.
Sauf que j'ai eu la chance de gagner, ouais. Mais j'ai eu un run incroyable, quoi. Enfin, faut vraiment se rendre compte de la chance que j'ai eu pour arriver là. J'aurais pu être le meilleur joueur du monde demain. Je serais champion de jamais.
Je veux dire, toi, t'estimes en langage poker que ton succès, là, c'est, t'as chatté pendant tout le temps, quoi.
Dans tous les cas, pour faire un deep run et pour gagner un tournoi, faut chatter. Tu peux, une fois, mettre.
Tu peux monter et descendre.
Voilà.
Tu peux monter et descendre. Je t'en ai montré la preuve sur le lien que je t'ai envoyé lorsque
je me souviens pas. T'as chatté, toi? Non. Ça t'arrive jamais, toi, quand même.
Qui, moi?
Non, toi, non.
T'es arrivé, toi. Genre, toi, non.
Non, toi, non.
Et toi?
Non, mais toi, non. Moi,
oui, aussi, je chatte. Ah, si, bien
non,
évidemment.
Toi, c'est que le talent, non?
Non, c'est pas le talent. Talent santé, alors. Donc, pour le coup, non, mais ce qui est intéressant dans ce que dit Robin, c'est que, à ta question, Daniel, quand tu dis, ouais, effectivement, t'es pas pro ou autre, il te dit non. Ça s'est vu de suite sur, lors de sa victoire. D'ailleurs, c'est factuel parce que la vidéo est en ligne. C'est que lorsqu'il gagne, tu vois qu'il recule en se tenant la tête. D'accord, genre en gros c'est ce que je suis en train de vivre, c'est incroyable. Et il y a sa femme qui vient, qui se prenne dans les bras et qui se serre pendant au moins 30 secondes, tellement que la puissance de la victoire est monstrueuse. Contrairement à des pros qui sont totalement détachés de la victoire, que ça soit des millions d'euros.
Tu veux dire qu'il a mis des bouts de vie?
Ah mais il y avait que de la vie. Et il y avait que de la vie. Et puis c'est bien de reconnaître quand on dit qu'on n'est pas pro et que on dit qu'on a chaté parce que c'était ce qu'on appelle le one time, la personne qui met la pièce, mais qu'on est quand même conscient que il faut faire attention. Mais je trouve ça terrible, surtout qu'il est quand même streamer, tu sais, sur tout ce qui est casino en ligne et tout ça, et que il a quand même la tête sur les épaules. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec lui à Bratislava et on a mangé ensemble le soir et tout. Et puis j'ai trouvé son histoire, magique, sans qu'elle prenne des proportions, en se disant, ok, je vais passer une étape au-dessus. Maintenant, je vais faire tous les roller, un peu tout ce que font les jeunes grinders.
Oui, c'est pas Léna situation du poker encore. C'est...
Non, il a pas fait l'hôtel Marcouf.
Ça pourrait être toi, ça.
Mais t'es malade,
Léna situation du poker. Toi, tu t'es déjà filmé en train de faire des parties?
Parce que c'est pas mon métier.
Bah, tu pourrais.
Je pense que tu te rends pas compte, Daniel. C'est comme si on te disait, est-ce que toi,
j'ai l'impression qu'il suffit d'une caméra, tu te mets en train de
jouer. Ah non, il suffit pas ça. Non, il faut écrire, tu sais. Tu vois, c'est un peu comme notre trame, tu vois. Il y a un producteur, faut écrire, il y a une trame, faut meubler. Enfin, c'est une rédaction, le stream. Enfin, faut investir dans du matériel.
J'avoue, je maîtrise pas.
Tu passes ta vie, mais
alors, maintenant, tu joues beaucoup plus, maintenant.
Voilà, ça fait un an que je joue beaucoup plus. Je me suis remis au MTT. Je me suis fait coacher par Flavien Guénon, qui est un très très bon coach. Kill Tilt, exactement. J'ai une approche où j'ai envie de progresser, et puis d'avoir des résultats rapides, parce qu'avant ça, j'avais aussi des petits résultats en tournoi. Ça donne envie de progresser. Et tu progresses vite et tu t'y prends et c'est grisant. Mais et puis de le vivre en stream, encore une fois, c'est pareil. T'as tous les retours en direct, la victoire aussi. Bah, ça joue aussi parce que je l'ai streamé.
Bien sûr, tu l'as streamé. Bah oui.
Et en fait, de vivre ça, de vivre avec les gens, que t'as tous les gens qui t'encouragent pendant ces trois jours de tournoi, c'est vraiment hyper long. C'est assez fou. Et pendant le tournoi, j'ai eu des moments de down où j'avais perdu de confiance en mon poker, j'étais moins bien. T'as les gens qui t'encouragent, qui sont là pour toi. C'est vraiment incroyable à vivre.
Mais ça t'a donné envie d'en faire plus, de jouer plus.
Oui, là,
t'es
j'ai
parti
vraiment.
À Bratislava et tout. Donc t'es pas pro de poker, mais tu pourrais jouer. T'as envie de jouer beaucoup plus de tournois.
Je vais jouer beaucoup plus de tournois, mais tu vois, j'ai pas beaucoup rejoué depuis que j'ai fait la victoire, par exemple. j'ai pas un besoin. J'aime bien les gros fields, j'aime bien les tournois live que j'ai découvert avec Winamax à Marrakech. Je crois que tu y es passé aussi.
Oui,
c'était la première fois que j'étais à Marrakech.
Quand il y a quelque chose, quand il y a quelque chose à Marrakech, je suis pas loin.
Mais voilà, l'ambiance au table.
Je suis moins à Bratislava. À face que caché.
Très sympa Bratislava.
Ça, je vous laisse. Destination hivernale, c'est pas trop pour moi.
Comment ça se passe? Tu streames, il fait du casino en ligne. Et puis, monsieur Lattaz, vous allez pouvoir aussi poser des questions si vous avez envie. Tu fais du casino en ligne, donc en stream. J'en connais quelques-uns, comme Tuffer, donc des Français qui sont expatriés et tout ça. Comment ça se passe en termes justement de jeu responsable? Comment, sachant qu'ici le jeu est interdit, en tout cas le jeu en ligne est interdit, du casino en ligne, comment tu, ta communauté c'est qui? Comment elle se fait?
C'est dur de savoir qui est ta communauté, et ça dépend comment tu vois la chose. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, mais en fait sur les influenceurs ou sur les streamers, moi en tout cas aujourd'hui, je trouve qu'il y a peu de guidelines qui te forcent à encadrer comment tu approches, quelle que soit l'activité que tu proposes, tu vois. Moi, personnellement, sur toutes mes vidéos YouTube, t'as 1 minute 30 d'intro où t'as les dangers du jeu, mais que ça soit poker, que ça soit tout ce que tu peux imaginer.
En jeu en général, d'accord.
Jeu en général d'argent, et tu parles de ça, en fait. Et le trigger, moi, je me retrouvais un petit peu dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pour moi, personnellement, avec mon expérience, c'est le plaisir. Quand tu joues et que tu prends pas de plaisir, c'est souvent que t'es dans une approche, en fait, qui va te traquer, qui va te driver vers quelque chose de négatif, parce qu'en fait, pour moi, ça doit être un loisir, le jeu d'argent. Avant tout, les paris sportifs et le poker, c'est un peu différent parce qu'on te vend un petit peu le côté où tu peux être professionnel, tu peux en gagner, etc. Le casino en ligne, c'est un truc qui est mathématique. Tu peux pas gagner d'argent. T'as pas de possibilité de gagner d'argent.
Tu peux pas en vivre dans le sens en tant que.
Ça veut pas être un professionnel.
Casino en ligne, c'est pas interdit. Alors, c'était quoi l'histoire quand Neymar faisait ça, etc.
Le casino en ligne, en France, je le dis pour vos auditeurs.
Ah bah oui.
Il est strictement interdit.
On est d'accord.
Le casino donc online, il est interdit pour une raison simple, parce que c'est l'offre la plus addictive sur le marché. Alors évidemment, on est un des seuls pays en Europe où c'est interdit. Mais néanmoins, en France, c'est interdit. D'ailleurs, que vous n'ayez pas de VPN. Ou avec VPN. Nous, après, l'ANJ, ceux qui proposent une offre de casino en ligne ou qui en font une publicité, on a un pouvoir de blocage administratif. Et j'attire l'attention de tout le monde que derrière, il y a des conséquences judiciaires qui peuvent être très fortes et qui se concluent par des peines d'emprisonnement.
Mais vous n'avez pas enquêté sur ce que faisait Neymar l'année dernière?
Alors, ce que je peux vous dire,
je sais pas
c'est
s'il était à l'ANJ à ce moment-là.
Si, je suis à l'ANJ depuis 2020.
Ah, d'accord.
Il y a, pour tout vous dire, on a bloqué à peu près 300 sites depuis un an grâce au nouveau pouvoir qu'on a sur ce point-là. Et on a décidé, là aussi, de changer de braquet, parce qu'en fait, quand vous bloquez un site, évidemment, il réapparaît dans la seconde qui suit. Et donc, nous allons sans doute, là, en fait, c'est pas sans doute, mais lancer, j'allais dire, des coopérations judiciaires un petit peu plus fortes pour aller chercher les gros opérateurs qui vivent aux dépens des joueurs français crédules et qui perdent beaucoup d'argent.
Non, mais c'est pas ma question. C'est quand Neymar faisait la pub pour le casino en ligne et qu'on pouvait voir ça sur son Insta en France,
on a bien. Alors, non seulement c'était illégal, et il a bien eu une intervention de notre part par voie de courrier de la présidente.
D'accord.
De l'ANJ.
Ou du directeur GD. Bon, en tout cas, l'ANJ est bien intervenu sur ce point.
Alors, a écrit à Neymar pour lui dire Neymar, tu arrêtes de faire ça.
Avec les avocats de Neymar, qu'il soit Neymar ou n'importe qui.
Oui, mais l'ANJ, c'est un personnage. C'est quand même quelqu'un d'un peu important. Effectivement, il faisait quelque chose d'illégal.
Tout à fait.
Et l'ANJ lui a signifié.
Exactement.
Est-ce qu'il a arrêté?
Là
maintenant, il s'est barré.
Cas,
mais bon.
Sur le point et sur l'opérateur en question, il y a eu à ce moment-là un arrêt de la publicité. Alors après, évidemment que c'est revenu. Vous connaissez bien les sujets, mais nous, on est déterminés sur ce point-là à agir.
On avait reçu, je crois, en début d'année, justement le patron de la police des jeux. D'accord. Et on parlait justement. Exactement. Et on parlait.
Monsieur Piala,
exactement. Et qu'on salue, qui a été super d'ailleurs. Ça faisait faillot ce que j'ai dit, mais c'est vrai qu'il était super.
Tu risques rien, c'est bon. Il va pas te foutre une brigade au
cul. Tu vas pas pour ce que j'ai gagné hier. Et justement, on parlait du casino en ligne qui va sûrement arriver en France, parce qu'actuellement, c'est dans les dossiers. Il y a des dossiers qui sont déposés. C'est déjà en Suisse. En Suisse, ça a commencé avec Barrière, je crois. Comment vous allez faire avec les nombreux opérateurs, quand ça va tout débarquer comme ça, est-ce que vous allez avoir la place, est-ce que vous allez avoir le temps entre justement les opérateurs de plateforme et les casinos en ligne?
Alors effectivement, la question s'est posée. Casino en ligne en France est un vieux débat. Il y a une loi actuellement qui s'est posée la question, puisqu'en fait il y a de nouveaux types de jeux qui arrivent. Ce sont les jeux Web 3. Alors je dis ça, j'ai un peu casaco, mais en fait c'est dans le Web 3. Ce sont les nouveaux jeux d'argent. Et là il y a une offre de casino en ligne nouvelle sur lequel il faut intervenir. Donc les jeux Web3 de type Sora, Renko, ils vont être légalisés et c'est l'ANJ qui va les réguler. Ça, c'est le premier point. À l'occasion de cette loi, la question s'est posée, est-ce qu'on en profite pour légaliser les casinos en ligne? Le gouvernement a été très clair, il a dit non. Pas, c'est pas le moment. C'est pas, donc les casinos en ligne ne sont pas légaux et n'ont pas vocation à l'être pour le moment en France. Nous verrons dans les années qui viennent. Et puis nous, évidemment, merci de le dire, pour réguler, pour être efficace, il nous faudra des moyens. C'est d'ailleurs ce qu'on a demandé au gouvernement, d'avoir plus de moyens et de pouvoir muscler notre dispositif pour pouvoir intervenir comme il se doit.
Robin, je reviens à toi. Est-ce qu'il y a dans ton évolution de joueur de poker, de streamer à la base, hein, ça j'ai bien compris, mais la volonté, comme tu étais à Bratislava, maintenant tu l'as dit, de jouer peut-être plus de tournois, mais je sais pas, l'année prochaine, d'aller te confronter à un Vegas, de voir un petit peu comment c'est.
Ouais, là, bah, Vegas, c'est un rêve de gosse, clairement. C'est, je pense, le rêve de tous les joueurs de poker.
Et ça, tu pourrais te streamer en route pour Vegas ou là-bas?
Compliqué, je pense qu'il faut une équipe avec des monteurs. Ça se fait, je crois que Winamax il fait dans la tête d'un pro. Je crois qu'il le fait, a suivi Chichi, ouais, qui a fait un super docu qui va sortir bientôt, que vous avez reçu, je crois.
Bien sûr.
La semaine dernière. Maintenant, après, j'ai envie que ça reste un loisir pour moi. J'ai pas envie que ça soit mon.
Non, mais Vegas, ça peut être un loisir. Hein.
Ouais, voilà, mais c'est ça.
Comme dire,
ça
serait... il va tous les ans, il va en loisir, hein, il va pas en
prendre. D'ailleurs, tu me suis à chaque fois.
Ça serait plus un budget que je mettrais comme. Enfin, voilà, si ça se passe et que ça se passe super bien, c'est cool. Mais je veux pas que ça soit une pression du quotidien de gagner sa vie avec ça. C'est pas mon truc. J'ai envie de continuer à l'avoir.
Mais Vegas, t'as envie de le voir quand même,
Vegas,
en expérience.
J'ai clairement envie de le voir et c'est possible que j'y sois l'année prochaine.
Donc les États-Unis, Vegas, c'est. Peut-être l'année prochaine, donc ça peut être un projet.
Ouais,
mais t'es déjà allé, t'as eu une expérience professionnelle aux États-Unis, tu voulais pas vendre des scooters aux US?
Ouais.
Oh putain.
Quand j'étais jeune, bon, j'ai toujours bossé quand j'étais jeune et j'étais embauché à distance aux États-Unis pendant 3 mois. Je devais vendre
à
des scooters.
À distance, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai passé un entretien téléphonique pour aller bosser dans un hôtel.
À l'américaine, quoi.
Dans un hôtel sur Block Island, c'était au sud-est de New York. Et j'arrive là-bas, j'avais plus ou moins fait. Fait le job au téléphone pour faire genre que je parlais bien anglais, etc.
Et que tu devais faire quoi comme taf?
Je devais vendre des scooters.
Vendre des scooters?
Ouais, voilà, louer les scooters de l'hôtel, etc.
Ah, d'accord, louer les scooters. Okay.
Ouais. Et du coup, j'arrive sur place, je commence à parler anglais, le gars me regarde et ne comprend rien à ce que je dis. Et là, je vois la sidération dans ses yeux.
Il dit, mais tu dis, il va pas louer le scooter, lui.
Ce gars, il vient 3 mois, c'est la pleine saison, il va me vendre aucun scooter. C'était pas possible. Et du coup, j'arrive sur place, il comprend vite que ça va être compliqué. Et il m'a mis 3 mois, en fait, parce que moi, j'étais content d'avoir un job quand même, housekeeping. Donc, en fait, je faisais des chambres d'hôtel.
Oh là là, quelle horreur.
J'ai nettoyé les chambres d'hôtel pendant 3 mois.
Housekeeping. Oh, quelle horreur.
80 heures par semaine. 80 heures par semaine.
Avec les Mexicains et tout.
Avec,
Au niveau de la langue, t'avais pas de soucis. Mais tu parlais pas bien anglais.
Tu parles pas. Bah,
tu
fais le lit et c'est tout.
J'avais pas du tout de contact avec les clients.
C'est horrible.
Et j'ai pas appris l'anglais non plus parce qu'effectivement, je parlais plus
espagnol. Non, c'est pas horrible, monsieur. C'était une expérience professionnelle.
Non, mais c'est horrible.
Moi, j'en ai eu plein des expériences professionnelles comme ça à la dure. Toi, c'est normal.
Laquelle? Vas-y. T'en as pas plus que moi déjà. Bon, j'en suis sûr.
Bon, arrête.
Moi, j'ai pas. Alors, moi, je posais les structures des marchés aux puces. 2h du matin.
Tu es bien, t'es à l'air, tu respires.
À l'air, tu respires.
Ouais.
Avec les jampis et tout ça.
Bien sûr, t'es à l'air, tu respires.
Vas-y, toi.
Moi, j'ai fait usine.
Et le bâtiment. 14 ans, premier contrat apprenti. Tu veux quoi d'autre encore?
Bâtiment, j'ai fait mais moins. J'ai fait 2 jours.
Ah oui, je les ai sentis les sacs.
Deux jours.
Pas.
J'ai fait 48 heures, moi. Et 48 heures usine cracotte.
Ah mais ça coûtait cher ça en plus, tellement bon.
Les cracottes, on
s'est craqué le cracotte. Bah à l'époque c'était comme Quality Street.
Je sais pas si ça existe encore.
On regardait la boîte, on savait pas ce qu'il y avait dedans, on voulait absolument.
Ça n'a jamais été luxe, tu rigoles, c'est les biscuits de base. C'est pas terrible du tout, tu confonds.
Cracotte, c'est la marque cracotte.
Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Et Romain Morvan depuis l'Australie sera avec nous.
Vous écoutez
RMC. RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Troisième partie du RMC Poker Show. On a démarré l'émission avec Rémi Lataste, directeur général de l'ANJ, qui a tout contrôlé dans l'émission depuis tout à l'heure. Là, il contrôle tout. Il a même contrôlé Robin Gérard, là.
Dans le hall d'entrée.
Le streamer qui est parti au Portugal et qui a gagné une très belle somme dans le
plus gros tournoi sur Wina.
Le plus
Wina,
gros tournoi sur des Wina Series. Peut-être taper un contrôle dès que tu arrives au Portugal. Là, et Rémi, il a bien de surveiller. Là, en revanche.
Non, mais le jeu n'est pas taxé au Portugal, je crois. Ah, si, maintenant.
En revanche, je suis pas sûr que Rémi Lataste puisse intervenir sur notre prochain invité.
Ah,
il est beaucoup trop loin.
Et
là, Romain Morvan, là, il est en Australie.
Ah.
On voulait lui parler la semaine dernière, il y a un problème de liaison. Là, il est là. Romain, est-ce que tu es là?
Je suis là, vous m'entendez?
Ah, yes, très bien. Il se peut qu'il y ait un décalage, donc il va falloir qu'on pose les questions, qu'on attende qu'ils reçoivent bien toutes les questions pour répondre. Donc Romain, le directeur général de l'ANJ est ici, donc fais attention à ce que tu fais. T'es sous contrôle.
Oh, on est bien, parce qu'on n'est pas résident fiscal français de toute façon.
Ah, alors tout va bien. Donc tu es expat en Australie. Tu es parti là-bas, pourquoi au départ?
Moi je suis de Guadeloupe à la base, donc déjà c'était un peu envie d'ailleurs.
La route était moins longue?
J'ai découvert la cueillette de fruits. Oui et non, mais j'ai habité au Canada pendant 3 ans en fait. Je suis parti étudier au Canada. 3 ans, j'ai découvert un boulot dans l'ouest canadien, c'était la cueillette de fruits, payé au rendement. Un pote qui m'avait chauffé, il me disait, ah, j'ai un pote qui a monté une tonne, il est parti un été, 2 étés, il est revenu, il a fait un prêt, il a acheté un appart, ça te dit, on chauffe, on y va, et puis on tente l'aventure.
Puis on est parti faire ça. Il a fait une tonne dans la cueillette de fruits. Romain, il a fait une tonne dans la cueillette de fruits.
Ouais, ça, je sais. Bon, attention, il a pas shippé 200K, mais ouais, il a fait une tonne. Ouais, par exemple, il a fait un été, mettons, à 20 000 balles. Tu fais un été à 20 000 balles. Ah oui. Quand tu travailles au salaire minimum, tu reviens, t'en fais un deuxième, et puis tu peux demander un prêt quand t'as une situation assez sérieuse. Le mec, il a acheté un appart, deux apparts, et puis c'est parti comme ça.
Excuse-moi, mais il ramassait quoi? Parce qu'il fallait qu'il ramasse vite, hein, pour il carburait, il ramassait quoi en fait comme fruit?
Principalement les cerises l'été, c'est ce qui paye le plus parce qu'en fait, les fermiers, ils peuvent vendre ça très très cher vu que c'est un marché de luxe en fait en exportation. Du coup, nous, en contrepartie, on peut avoir un salaire qui est plutôt avantageux et on peut vite fait faire 4, 5, 6, 7 fois le salaire minimum. Et puis maintenant, ça a encore explosé avec les augmentations de salaire parce que les mecs, ils trouvaient personne pendant le Covid et la pandémie. Mm-hmm. Donc ouais, c'est de là que c'est parti. Et du coup, je suis parti en Australie juste pour ça à la base. C'est ça, j'ai rencontré ma copine, je suis rentré à petite escale en Guadeloupe. Elle m'a dit, ah bah, je veux voyager. Je lui ai dit, bah écoute, moi je pars en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je vais cueillir des fruits. Elle m'a suivi, on est arrivé, on a acheté un van et c'était juste pour aller cueillir des cerises. Là, c'était le plan. Quoi. Incroyable. Il n'y a rien d'autre derrière.
Incroyable. Et alors, comment tu t'es mis au poker?
Je jouais déjà un peu en récréa. Je jouais des sit and go avec les copains à la maison. Mm-hmm. Je jouais les 1, 2, 3 balles, 5 balles sur PokerStar. Après, je me suis mis un peu à jouer sur Wina. J'ai toujours joué en récréa, un bon fish, hein, vraiment. Genre, j'ai jamais vraiment perdu. Mais tu sais, dépôt 100 balles, on gagne 500, on broke, on remet 100 balles et ainsi de suite. Ouais. Et un jour, j'ai rencontré un mec qui était passé pro. Et petit à petit, à force de suivre, j'ai commencé à m'intéresser un peu, à chercher un peu de contenu, à me former de plus en plus, prendre un petit cours, un petit peu de coaching, une petite dizaine d'heures de coaching. Ça a pas fait le déclic encore, mais en fait, avec le fait que la cueillette de fruits, je gagne énormément bien ma vie ici en Australie. J'ai une belle bankroll derrière de base, en fait. Et puis, je me suis dit, allez, je vais essayer de jouer un peu live. Parce que ici, les mecs, ils sont blindés. Franchement, la qualité de vie est énorme. Du coup, même quand tu vas jouer à 500 balles au casino, c'est des fois comme si tu jouais à 5 euros sur Winamax.
Ah ouais, d'accord.
Un peu, mais
incroyable ton histoire.
Ouais.
Et alors, c'est quoi tes résultats? Parce que là, t'es bon, sur
après,
le.
Voilà, c'est comme ça que c'est parti.
Mais là, on va dire que tu joues sur le marché australien. Je crois que ça n'existe plus, les OC Millions. Je crois que ça a capoté ce truc-là.
Non, ça n'existe plus à cause du casino qui a dû être sous contrôle judiciaire. Ils n'ont plus le droit d'organiser.
D'accord. Et alors, tu joues quoi là-bas? Tu joues quoi comme tournoi en live là-bas?
Alors, il y a 2-3 circuits locaux qui s'appellent Australian Poker League et Australian Poker Tour. Et puis, ils ont aussi genre 2-3 autres trucs sur le stade. Mais par contre, il y a WPT qui organise un event chaque année, un main tour avec la Sexton Cup qui est le gros main event. Et ils ont aussi des side events WPT Prime. Et il y a World Series of Poker qui organise un WSOP circuit. Et il y a aussi un de ces circuits locaux qui organise une Million Series chaque année. Un peu pour compenser l'OC Million, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais ça reste quand même très, très gros. Donc, on a quand même une belle offre. Et à côté de ça, on a un peu l'Asie aussi qui est en train de boomer en ce moment. Donc là, par exemple, en ce moment, là, je suis au Vietnam. Je suis en train de jouer un WPT au Vietnam, là, tout de suite.
Est-ce que t'es loin des fruits, là. Ouais, loin des cerises.
Ici, au Vietnam, ça va être charmé, les cerises.
Ouais, mais je pense que tu as gagné, ça doit rapporter beaucoup moins qu'en Australie.
Ouais, les fruits, là. Non, on n'est pas là pour les cerises. C'est ça.
Et il paraît que les médias australiens te connaissent déjà pour tes résultats.
Ouais, bah c'est ça. Bah ça fait un an. En fait, j'ai fait jouer un petit peu en ligne encore sur quand j'avais un peu de temps, que je bougeais un peu, je voyageais, etc. Donc vu que saisonnier, quand tu cueilles des fruits en général, donc à un moment donné, à la fin de ma saison de cerises, il y a presque deux ans, j'ai fait deux énormes perfs. En fait, j'ai fait une petite perf live. J'ai pris un 10 000. J'ai pris un 5 000 sur un autre tournoi en ligne sur une plateforme
étrangère,
une plateforme internationale. Okay. Et j'ai aussi fait un gros résultat. Ouais, j'ai fait un gros résultat sur GG Poker. J'ai pris un satellite pour le 150 GG Master et j'ai pris 35 000. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit bon bah allez, let's go.
C'est mieux que les cerises. Vas-y, avec des cerises.
Avec ça, t'as pu t'acheter des cerises.
Bah ouais, je joue et je mange des cerises, tu vois. C'est génial.
Et je peux plus les voir. Ah, rendu là,
mais bon. Moi j'adore. Vas-y. Ça.
Tu sais que je suis capable. Je suis un grand fan.
Tu crois que je suis capable de m'enfiler un kilo comme ça direct, moi, de cerises.
Toi,
je deviens ouf avec.
En plus, si tu gagnes de l'oseille,
si elles sont bonnes, je deviens ouf.
Bah toi, si on te lâche dans le champ, on gagne pas de l'oseille.
Excuse-moi, Romain, mais cette histoire de cerises là, pardon, mais quand tu dis je gagne bien ma vie, c'est combien de temps ça dure ta cueillette de cerises? C'est un mois, deux mois? Combien de temps ça dure?
Bah, disons que ça s'étend sur l'été. Donc en général, je faisais pas que les cerises, hein, je faisais d'autres trucs aussi, mais les cerises, c'est ce qui paye le plus. Et sinon, ça dure sur l'été. Il faut bouger un peu selon. Par exemple, l'Australie, c'est un gros continent. Donc si tu descends au sud, ça commence plus tard. Donc tu peux étaler sur deux mois et demi, trois mois, tu vois. Et puis honnêtement, à la fin, je faisais vraiment des salaires. Là d'ailleurs, c'est marrant parce que bon là, je gagne vraiment bien ma vie au poker, mais je joue des tournois, donc il y a énormément de variance, etc. Comme disait Robin tout à l'heure.
Donc les cerises, ça stabilise.
Même quand t'es pro, bah tu chattes, hein, même quand tu fais un gros score. Voilà, exactement. Et ma copine, bah elle fait pas mieux que ça en salaire. Donc à nous deux, en gros, on fait l'équivalent de plus de 100 euros de l'heure. Dès qu'on est dans les cerises. Donc mettons on retourne faire les cerises quoi qu'il arrive et on vit dans notre van tranquille avec les potes, c'est
incroyable.
Franchement, Romain, c'est
avoir l'après-midi off.
Romain, ça fait 10 ans qu'on fait le RMC Poker Show, c'est une des plus belles histoires qu'on ait.
Mais moi je kiffe,
c'est incroyable.
Excuse-moi, la déco de ton van, il y a quoi? Est-ce que sur les bols il y a des cerises? Est-ce que tu sais le
Non mais on peut plus les voir, je te dis, on peut plus les voir. Moi ça m'a pris ma première journée. T'en bouffes un kilo, je peux te dire qu'après tu n'y touches plus. Tu n'y touches plus. Ma plus grosse journée, dis-toi, j'ai cueilli une tonne.
Oh là
une
là.
Tonne. Donc je peux te dire que je les vois différemment. C'est vraiment genre un mindset, hein, parce que c'est très.
Mais
très
le fait que tu sois bon et que tu fasses du blé, c'est parce que tu vas vite, parce que t'en fais, c'est payé à la quantité.
Non, il y a une machine.
Ouais, bien sûr,
Non, c'est payé à la quantité.
Ah, c'est payé à la quantité, donc.
Bien sûr.
T'as une machine.
Non, je suis clairement un des meilleurs, pas pour vanter.
Je suis top rank dans la cerise.
C'est moi tout à la main directement. Ouais, c'est ça. Non, clairement. Non, par contre, après, si t'es un peu motivé, c'est assez facile de faire un salaire décent d'entrée. Faut juste être concentré, en fait, faut sauver du temps, faut optimiser. Bah, c'est un peu une approche de mindset, de challenge, parce que des fois, en fait, tu vas, c'est dur, tu vois, et puis il faut juste passer au travers de la tempête un peu. Et puis à la fin de la journée, tu vas toujours avoir une journée un peu moins bonne que les autres, mais à la fin, tu vas toujours faire un salaire qui est décent, il faut pas cracher dans la soupe, donc tu te dis bon.
Non, jamais cracher dans la soupe.
Bien,
Et Romain, donc là, t'es installé en Australie, la vie a l'air de beaucoup te plaire là-bas, ça veut dire que tu vas rester un joueur de poker australien ou t'as dans l'idée de revenir, je sais pas, tu disais quoi. Au départ, ta base, c'est la Guadeloupe. T'as envie d'y retourner. T'as envie, je sais pas, d'aller jouer aux États-Unis à Vegas, comme je demandais tout à l'heure à Robin. T'as envie de faire quoi avec le poker finalement maintenant?
Moi, je suis passé pro il y a un an et demi et j'ai monté. Bah, j'ai eu de la chance. J'ai fait des résultats tout de suite. Donc après, j'ai gagné un side event WPT tout de suite. J'ai gagné quelques petits scores sur le circuit australien. J'ai commencé à me faire un nom. J'ai fait un autre résultat en ligne. J'ai gagné un 50 balles pour 70 000. En août dernier, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de monde. Donc maintenant, j'ai un très très bon réseau de très très bons joueurs internationaux. Donc j'ai vraiment vraiment bossé, j'ai poussé mon jeu. Donc là maintenant, je suis vraiment à la prochaine étape de. Je suis en train de vraiment de considérer que je vais vivre du poker pour un moment. Je veux rester en Australie idéalement. Le problème, c'est que le visa, c'est pas facile. Donc je veux aussi considérer mes autres options. Donc pour l'instant, je vais regarder l'Asie. Les États-Unis, ça m'intéresse un peu moins parce que c'est le coût de la vie, les taxes, etc. C'est pas trop avantageux. Donc vraiment, j'essaie d'optimiser. Donc là, mon but, c'est vraiment de monter le maximum et puis de continuer à grinder, de jouer un peu tout quoi. Donc là, je joue un peu tous les high-rollers, je joue un peu en ligne. J'essaie de bien choisir mes tournois. Donc il y a des tournois qui sont très très bons et rentables. Bah j'essaie de m'y mettre. Si ça me coûte le moins possible pour voyager, etc. Bah j'y vais. Ça marche un peu comme ça quoi.
Merci beaucoup Romain Morvan. J'ai adoré ton témoignage. Merci d'être venu dans les RMC Poker Show et à très bientôt, on va se tenir au courant pour les cerises, pour tout.
Petite dédicace à mon pote parce que vous l'avez reçu aussi, c'est grâce à lui aussi que je suis là et je l'ai rencontré, Anthony Cherko. Ouais. Vous l'avez eu il me semble il y a un
absolument,
an
absolument ça.
Une connerie comme ça, il a fait une perf et je l'ai rencontré au casino genre en live ou quand j'étais encore vraiment tout début et à travers de lui en fait il m'a vraiment énormément aidé à progresser et puis une étape après l'autre donc on est encore là ensemble, il vient encore de faire un beau résultat au Vietnam là donc avec un peu de chance, vous allez entendre encore parler de nous dans les prochaines années.
Tout le mal qu'on
avec plaisir, plaisir Romain. Plaisir. Très bientôt, ciao.
Quelle belle histoire, j'ai adoré cette histoire. Voilà.
Cette histoire de chérie, géniale. Hein. Franchement, la cerise partout.
Jérémy, bonsoir les amis.
Salut boss.
On a
plus beaucoup de temps, on trace
un peu. 5
allez,
minutes
c'est parti,
pour jouer.
C'est parti.
C'est parti.
RMC Poker Show. Dans la tête d'un fiche.
On n'a même pas eu le temps de donner les résultats. L'actualité, le main event, FPS, Aix-les-Bains, victoire d'Alban Juan, on dit comme ça?
Oui, Juan, c'est ça.
Juan. Ouais, c'est ça.
June, voilà, l'USDO Marrakech, il y avait un main aussi à 550 balles, Alexandre Levaillant.
Oui.
S'est imposé, il y avait 752 joueurs dans ce tournoi, donc belle affluence, très bien. Marrakech, on y retourne pour jouer au poker. Exactement. Et c'est tant mieux. Et Chypre va accueillir son premier répété,
là où j'ai fait les détritons exceptionnels. Et nous avons déjà Alexandre Ehar qui est déjà là-bas et qui se kiffe. Et c'est génial.
C'est parti, Jérémy.
Allez, on reste chez nous pour se refaire la cerise. On est sur notre canapé.
Oh oui.
Facile. Où vous voulez d'ailleurs, on est sur notre canapé dans un fauteuil, on est chez nous. On va jouer online. Un tournoi qui
fait l'arbitre, en fait.
On va dire que c'est cet homme-là, c'est le seul pro à table. On est d'accord, Mondir, tu le prends pas mal. Tu vas le faire pour nous ce soir parce que Pierre Calamusa est dans le train. Ok, on est online. Un tournoi à 50 euros qui a réuni des centaines de joueurs. On est en heads up. On n'est plus que deux.
Ah.
C'est magnifique. Il y a un gros gain à la clé. 50
000 euros. Rémi, vous jouez au poker?
Non.
Ah, bon, non. Vous écoutez, c'est toi.
Il y a un gros gain à la clé, 50 000 euros, mais on est déjà assuré de 34 000 euros. On a un tapis de 430 millions, au blinde 7 millions, 14 millions, ce qui fait 30 blindes. Notre adversaire a trois fois notre stack. On est au bouton, on est donc de petites blindes et on ouvre Roi 3 dépareillé. On a payé la petite blinde, qu'est-ce qu'on fait? On dit Roi 3 dépareillé.
On est de petite blinde.
On est de petite blinde.
Et on a Roi 3.
Et on a Roi 3, mais on est en heads up. Hein.
T'as chu là, oh. Ça, les cartes n'ont plus les mêmes valeurs.
Je sais que t'aimes pas cette main là, mais.
Ah, excusez-moi, mais arrêtez de m'emmerder.
Non.
Je sais que ça n'a pas la même valeur, mais Roi 3.
Il va nous dire, chauffe-qui peut. Ça reste Roi 3, mais en heads up.
Moi, je veux bien vous faire plaisir si vous voulez, mais bon.
Open combien? Donc les blindes 7-14.
2.5.
2.5. Daniel, t'as pas envie de la jouer?
Bah non, j'ai pas envie de la jouer. Mais je vais la jouer comme Mundi. Hein.
Chauffe qui peut, qu'est-ce qu'il fait?
Bah arrête de dire que tu ouvres tout le temps en Roi 3.
Mais pas
même en heads up.
Mais il est fou celui-là. Bon vas-y.
Faut pas oublier qu'on a que deux. En heads up, c'est un foldable. Donc soit c'est un open,
c'est un foldable.
Une stratégie d'open en heads up, soit on peut limp. Pour voir ce que va faire la grosse blinde.
Limp call.
Ok. Nous on a fait x2, on a fait 28 millions. C'est payé par notre adversaire. Le pot fait 60 millions. Le flop vient 3 de trèfle. Roi de trèfle. Ça va mieux. Et 5 de pique.
Ah t'es content de coller. Hein.
Magnifique.
Moi j'aurais libre.
On a deux paires. Check de la grosse blinde et c'est à nous de parler. La parole nous revient. Mundir, t'avais envoyé avant le flop. Qu'est-ce que tu fais?
Bien évidemment.
Dans ce pot à 60 millions.
Bien évidemment. Je mets un petit. Je fais un petit 28 comme ça. Petit 28. Moi j'aime bien. 28 890.
28 890.
Ouais.
Daniel.
Oui, bah si je suis rentré dans le coup et que j'ai ouvert, je vais c'est bête. Oui.
Bah oui, maintenant qu'il a touché.
Ah non, le pot il fait 30 millions. Pardon. Combien on fait en 30 millions? Maintenant, il fait 60 millions, n'importe quoi.
Ah, il fait 60.
Ouais,
il 60.
A dit qu'il mettait 28.
Ouais, 28. Moitié du pot.
J'aurais fait peut-être 25.
Moi. Ouais, je pense qu'un quart, un tiers, c'est bien ici. On est très, très fort ici. On veut garder notre adversaire avec nous. Et on peut aussi un news des check raise un peu plus light.
Moi, je l'aurais envoyé une invite avec des fleurs.
OK.
Des cerises.
On a envoyé 21 millions. Et notre opposant a check raise à 68 millions. On s'y attendait pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait, Mundir?
Bah, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas du tout inquiet, personnellement, et c'est totalement.
Mais est-ce qu'on paye juste, ou est-ce qu'on pousse tout?
Il y a deux piques. Il y a deux piques, c'est ça?
Deux trèfles.
Il y a deux trèfles. Bah, écoute, non, je vais.
Deux trèfles, un pique.
Non, je vais garder avec moi, je vais garder. Bah, je vais garder tous ces rois valets, ces rois dames, enfin voilà, quoi, donc je colle.
Daniel, est-ce que t'as envie de revenir dessus, ou juste de payer le.
Dis la vérité,
est-ce que s'il
pour le piéger.
Est-ce que, en heads up, justement, est-ce que s'il avait, comme tu dis, roi valet, roi dame, il t'aurait pas trois bêtes sur ton ouverture initiale? Tu penses qu'il aurait juste payé?
Non, just call.
Bonne réflexion.
Si.
Just call. Je sais pas. Je pense qu'il aurait 3 bêtes en HU avec une main, avec un roi.
En temps normal, t'as rarement des trucs.
Je me trompe peut-être, mais je le mettrais plutôt sur un tirage, donc avec les trèfles ou avec, j'en sais rien, moi.
As 2 ou un truc comme ça. Bah, je préfère aviser. Au moins, je colle son 3 bêtes.
Oui, non, mais que je colle, évidemment.
Payé, on est OK, je trouve qu'il peut.
Oh ouais, je pense que c'est le meilleur play ici.
Bon, c'est ce qu'on a fait. On a payé. Le pot fait 195 millions. Turn, valet de trèfle, qui fait rentrer la flush. On a 3 trèfles.
On est dans la merde un peu là.
Deuxième salve en face, 69 millions dans 195 millions. Est-ce que ça a déjà compliqué ou pas? Moundir, payé. On ne revient pas dessus.
Non, je ne reviens pas dessus.
Payé. Daniel, pardon.
Là, on est conscient que on peut aller au bout sur une main pareille. Ouais. S'il continue d'attaquer et si on continue de payer, ça peut nous mener loin. On est bien d'accord. Et on est d'accord que je ne vois pas. La river, je vois, à part si elle nous aide, nous, avec un roi ou un 3, je vois pas comment on va freiner. Donc on est d'accord qu'on va aller, qu'on est prêt à aller au bout à partir du moment où on a payé ça.
Bah, s'il y a un autre trèfle, non. S'il y a un trèfle qui arrive à rivière, tu peux.
Tu vas t'en aller?
Bah oui, enfin.
S'il y a un trèfle, si c'est le seul moment, c'est la seule chose qui fait que tu vas t'en aller. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense que le bet est assez small. On parle d'un tiers du pot ici. Je pense que la seule option, c'est de call. Il n'y a pas d'intérêt à faire.
Moi, évidemment que je call aussi, mais je voulais qu'on soit tous d'accord sur l'idée qu'on risque d'aller au bout, quoi.
On sait qu'on est en train de payer. Le pot fait 330 millions. River, dame de carreau. Et vous y attendiez. Tapis annoncé en face.
Merci, messieurs. Je vous écoute.
Ok, mais attends.
Mundir.
Réflexion. Son intérêt.
Je rappelle, on a 2 paires. Il y a 3 trèfles sur le board. Est-ce que tu te sens bien, serein? Je rappelle qu'on joue pour 50 000 euros.
Moi, depuis le début, je l'ai mis sur un tirage. Ça me semblait être un tirage, son affaire.
Je pense que si son tirage, s'il avait touché son tirage, il aurait check turn, il l'aurait pas rentabilisé, au contraire. Puisque on a collé son 3 bet. Je colle parce que pour moi, c'est une erreur qu'il fait.
C'est payé, Daniel?
Moi, c'est une erreur de sizing.
Bah, moi, je suis en train de vous dire que ce roi 3 de merde, je l'aurais pas joué. Mais bon, vous m'avez entraîné dans votre histoire. Tu colles, toi?
Ouais, je colle. Je sens qu'il y a une erreur sur son sizing et personnellement, je colle. Je pense qu'il peut se level à ce moment-là parce qu'il peut représenter 3 valets.
Oui, il y a de fortes chances que
il peut avoir As-3 aussi. Il a de fortes chances
que je colle aussi, quoi. Parce que je vous ai dit, je pense qu'on était coincé et qu'on allait au bout sur cette affaire-là, malheureusement.
Comme Bernardo.
Ou heureusement, on va voir. Robin.
Moi, je pense que c'est très dépendant du profil adverse. Si on estime qu'il a beaucoup de bluffs qui sont encore arrivés à la river ou pas. Et je pense qu'ici, un call n'est pas déconnant, en tout cas.
Et ben, on a fini. Que ce soit pas déconnant, c'est pas déconnant, mais ouais. Je pense que ça peut nous coûter cher.
On a fini par payer. En face, il y avait 7 hommes. C'est la main finale du 3 million event qui avait flush avec Dame 7. Si, je vais. Dame 7 de trèfle.
Je connaissais le coup.
Magnifique. Ça s'est pas vu, en tout cas. Ça s'est pas vu.
Tu mens devant lui, il te regarde et tu mens.
C'est un énorme bluff.
S'il vous plaît, monsieur Latane, mettez-lui un contrôle. Allez regarder.
Pourtant, ils vont pas regarder.
Ce que fait ce bandit. Il a pas le droit de mentir comme ça. On ne peut pas mentir comme ça aux gens.
Ils sont les deux. Ils sont
les gens qui nous écoutent.
On était bien appréciés.
Pense à eux. Mentir. Robin, tu le crois pas?
J'avoue que là.
Robin, monsieur Latane, vous le croyez pas? La NG peut pas croire. Hein.
Mais je colle tous les jours. Je colle tous les jours.
Ah oui, n'importe qui.
De ce que je te dis, on est allé au bout dans votre main là. Oui, il faut jouer croix et trois.
Ça c'est vrai. Je pense que ça c'est vrai. On n'est que deux, oui.
Bah moi je le sentais pas parce que je savais que c'était lui qui était en face et c'était.
Fais un métier où on sent, c'est tout. Travaille dans les senteurs, dans les parfums, mais arrête le poker.
Monsieur Latane, Rémi, merci beaucoup d'être venu, directeur général de l'ANG, d'être avec nous cette semaine. C'est la semaine du jeu responsable. Faites tous attention, évaluez. Ou on peut s'auto-évaluer même sur.
On peut s'auto-évaluer sur le site de l'ANG qui s'appelle Evalujeu.
Evalujeu.fr. Voilà, exactement. Chauffe qui peut.
Merci frérot.
J'ai bien compris avec cette main que quand on te croisait, effectivement, il fallait se barrer. C'était chauffe qui peut. Moundir,
à bientôt.
Je retiendrai longtemps ce mensonge.
Exactement.
On est resté sur une super histoire de cueillette de cerises. Ouais. C'est devenu tout gâché.
Fallait changer d'ambiance.
C'est devenu tout gâché. Bonne semaine à tous. Ciao.